à nu. Cette semaine, France Culture rend hommage au philosophe Michel Serres, récemment disparu. En 2002, il s'entretenait avec Jean-Paul Dolé. Aujourd'hui, paysan pacifiste.
Bonjour, Michel Serres.
Bonjour.
Nous allons, pendant toute cette semaine, parler de vous, de votre œuvre, de vos hypothèses, de vos propositions. Vous êtes un philosophe très connu, même reconnu. Vous avez écrit, je crois que je ne me suis pas trompé, j'ai compté 29 livres, plus 4 en collaboration. Vous avez fait partie de commissions sur l'enseignement, sur l'audiovisuel. Vous êtes à l'Académie française, votre voix porte loin. Et vous avez enseigné en France et vous enseignez toujours aux États-Unis à Stanford, après avoir enseigné à Boston. Et pourtant, je pense, vous me direz si vous êtes d'accord, que nous ne sommes pas encore tout à fait en mesure de comprendre exactement les enjeux de ce que vous avez fait. Et je pense que toute cette semaine, je vais essayer justement de comprendre avec vous, d'essayer de bien cerner le noyau à partir duquel vous avez fait cette œuvre foisonnante, certains disent encyclopédique, mais qui peut faire en sorte que l'on perde le fil qui parcourt toute votre recherche. Ce fil, à mon sens, c'est la recherche obstinée, passionnée de la paix et de la manière de briser avec la violence. C'est pour ça que, si vous en êtes d'accord encore, aujourd'hui, je voudrais qu'on reparte des moments clés, à mon avis, de votre enfance et de votre jeunesse, qui peut-être, au moment où vous l'avez vécu, ne vous ont pas paru fondamentaux, mais qui, dans l'après-coup, me semblent être des moments fondateurs de ce qui sera votre pensée. Alors, j'aimerais que, aujourd'hui, nous parlions de votre enfance dans le milieu paysan, de votre expérience de la guerre qui vous a marqué profondément et qui vous marque encore profondément, et aussi de votre passage dans vos études, des sciences dures aux humanités. Vous êtes passé de Naval à l'École normale supérieure. Et je pense que si on regarde bien ces trois moments, on va déjà rentrer dans votre problématique et dans votre pensée. Donc, si vous voulez bien, nous allons parler de ça aujourd'hui.
D'accord.
D'abord, votre enfance dans le milieu paysan. Qu'est-ce que ça vous a appris ?
Merci de poser cette question. Mais avant d'y répondre de façon locale et précise, j'aimerais revenir sur un point que vous avez évoqué avant de rentrer dans ces trois détails fondamentaux. Vous avez dit, nous ne percevons peut-être pas encore les enjeux de votre travail. Vous avez raison. Pourquoi ? Parce que, à certains égards, lorsque on construit une philosophie, on se donne pendant assez longtemps les moyens de le faire, c'est-à-dire les matériaux de construction, comme si, par exemple, on taillait des pierres avant de construire la maison. Mais c'est une mauvaise métaphore, c'est-à-dire on n'a pas d'abord dans la tête, on n'a pas avant tout dans la tête le plan et l'architecture de la maison qu'on va monter. Et vous avez raison de parler de l'après-coup. Ce n'est qu'après-coup que certaines choses se profilent. Et je vais prendre un exemple. Je ne veux pas dire que je me compare à lui, mais un exemple qui est frappant, c'est que Balzac, par exemple, écrit des romans, et ce n'est qu'au bout de 20, 30, 35 romans qu'il découvre le plan de la comédie humaine. Il n'a pas encore conçu la comédie humaine qu'il était en train de l'écrire, vous voyez ? Donc, il est vrai que l'enjeu, on le découvre avec un peu de retard. Et je crois bien que je suis en train de découvrir les enjeux en question dont nous parlerons plus tard.
Donc c'est vrai que une minute, c'est oui. En ce sens que vous n'êtes pas un commentateur.
C'est ça.
Vous jetez à l'eau.
C'est ça.
Et après on voit.
Voilà, c'est ça. Après on voit. Vous avez raison. C'est-à-dire que au fond, on commence quelque chose, on se donne des moyens, on se donne des éléments, et ensuite le plan vient avec le geste qui le construit. Alors maintenant, vous me posez trois questions concernant à la fois l'expérience, disons, agricole ou agraire que j'ai eue, puis la guerre et ensuite les études complémentaires que j'ai faites sur les sciences dures et les humanités ensuite. Alors d'abord, l'expérience paysanne, elle a été importante à mon sens à trois points de vue. La première, c'est que je suis un homme, je n'ai pas honte de le dire, qui a une ethnologie. Je n'ai pas besoin d'aller dans les îles lointaines du Pacifique ou dans les rivages perdus des Indiens d'Amérique du Nord pour savoir ce que c'est qu'une ethnologie. J'ai une ethnologie, ce qui veut dire que je suis porteur depuis les premières années de ma vie d'une culture, ce qui veut dire d'usage, de manière de vivre, d'une certaine langue et ainsi de suite, ce que depuis l'école allemande on appelle une culture, ce qui impliquait un parler, c'est-à-dire un parler qu'on appelait patois et qui était de Languedoc, puis un certain nombre d'outils, un certain nombre d'usages de ces outils, une certaine attention portée au climat ou aux saisons, et ainsi de suite. Voyez. Donc là, il y a une sorte d'apprentissage d'une culture locale. Et dès lors que vous quittez ce lieu, la ferme, le village, l'arrondissement, vous commencez un voyage qui vous conduit du local vers le global. Or, ce voyage d'une ethnologie locale, d'une culture locale vers le global a été un des problèmes qui s'est posé à notre philosophie maintenant. C'est étrange, n'est-ce pas ? Notre philosophie était beaucoup trop occidentale, notre philosophie était beaucoup trop orientée ou centrée sur l'Europe, notre philosophie était beaucoup trop centrée sur un certain type de culture gréco-germano-latine et ainsi de suite, et nous avons dû peu à peu nous élargir vers le global. De sorte que mon expérience locale de l'ethnologie et le passage vers le global était déjà un opérateur philosophique.
Michel Serres, est-ce que vous diriez que vous avez une mémoire du corps, du fait que vous avez baigné dans cette, disons, culture paysanne, cette mémoire du corps qui, bien sûr, quand cette mémoire, elle est toujours là, même si vous, vous n'êtes pas tout le temps en train de la mobiliser,
exact.
Et que cette mémoire, elle a eu, elle a toujours une importance fondamentale pour que vous compreniez le monde qui est maintenant à basculer
vers le global,
autre façon.
Oui. La réponse est oui, puisque je me suis beaucoup occupé du corps. J'ai fait deux ou trois livres, d'abord sur les cinq sens, ensuite sur le corps. Mais d'autre part, je vais prendre de nouveau une comparaison. Les philosophies autour de moi, que j'ai apprises quand j'étais jeune et qui se développent encore aujourd'hui autour de moi, me paraissent le plus souvent pêchées par ce que j'appellerais volontiers l'acosmisme, c'est-à-dire l'absence de monde, l'absence de nature. On dirait que les philosophes autour de moi ne s'occupent que de parler, que du langage, quand il s'agit de logique ou de philosophie analytique, qu'il ne parle que de politique, c'est-à-dire des relations à l'intérieur d'une ville donnée, et il leur manque une sorte de dimension naturelle, c'est-à-dire le rapport au monde, le rapport à ce qu'on appelait autrefois la nature, à ce que Rousseau appelait la nature. Et dans le parallèle Rousseau-Montesquieu, il est bien clair qu'on a oublié Montesquieu. Pourquoi ? Parce que Rousseau est un homme qui analyse les contrats sociaux de façon absolument rigoureuse, tandis que Montesquieu dit
les climats.
L'influence des climats, oui, oui. L'influence des latitudes, l'influence du chaud, du froid, de la manière de cultiver la terre, etc. Et c'est un côté chez Montesquieu que j'ai toujours respecté. Et je l'ai respecté parce que je l'ai vu sur place, je l'ai vécu ainsi. C'est-à-dire, en effet, on ne peut pas comparer l'agriculture du Midi à celle du Nord, celle de mon pays à celle du vôtre, par exemple, oui, puisque visiblement je suis gascon et vous picard,
voilà,
très bien.
Picard,
voilà. Voilà. Oui. Et donc, ces cultures diffèrent, mais elles diffèrent encore plus si vous comparez l'agriculture de France et celle d'Allemagne, l'agriculture européenne et celle de la Chine, l'agriculture eurasiatique et l'absence d'agriculture des aborigènes d'Australie.
Oui,
donc, toutes ces cultures-là, forcément, reçoivent des influences de leur rapport au sol, de leur rapport au climat, de leur rapport à la manière de travailler la terre. Et ce côté Montesquieu m'est toujours resté et il s'est développé jusqu'au contrat naturel.
Si vous permettez là, je fasse une remarque, c'est que vous parlez de la philosophie, mais plus grave encore, si j'ose dire, bien qu'il n'est pas plus grave qu'une faute en philosophie, mais moi qui fréquente le milieu architectural, ce qu'on a appelé le style international...
Oui.
Effectivement, a oublié totalement le fait qu'on habitait quelque part.
Voilà, c'est-à-dire
qu'on habitait dans un climat.
Voilà.
Et dans une certaine terre. Et alors, ça a fait des catastrophes que vous avez connues, puisque vous voyagez beaucoup.
Oui, oui. Et on a oublié simplement le sens profond du mot paysage.
Voilà.
Le mot paysage, moi je vois autour de moi des traités du paysage qui ne s'aperçoivent pas que paysage est un mot qui dérive du vieux mot latin pagus, qui a donné le mot paysan, et que le premier paysagiste, c'est le paysan, qui a donné par la suite le mot païen, c'est-à-dire qui est la religion fondamentale de celui qui a un rapport direct à la terre, le paganisme, païen, paysan, c'est le même mot, mais on a surtout oublié le rapport extraordinairement profond qu'il y a entre paysage, paysan, païen et la paix. On oublie que vous avez parlé tout à l'heure des problèmes de guerre, de violence et de paix, mais le mot paix est encore le même mot issu de pagus qui a donné paysan, païen et paysage. Et donc, il est vrai que dans les constructions, aussi bien philosophiques d'ailleurs que réelles, celles dans lesquelles on habite, le mot paysage maintenant a des significations qui n'ont plus rien à voir avec cette grandeur et cette lenteur historique avec laquelle les paysans l'ont dessiné, peint et construit. Le premier artiste, c'est lui.
Mais alors, si je vous écoute bien, il me semble que quand même les syndicats agricoles auraient tout intérêt à venir vous voir plus souvent, parce que peut-être qu'ils défendraient mieux leurs revendications.
Mais
je ne sais pas s'ils vous ont déjà contacté.
Je suis resté assez proche d'eux depuis très longtemps. Il y a beaucoup de syndicats agricoles que je connais, etc.
Et par contre aussi, la nouvelle profession qui fait florès, les paysagistes.
Paysagistes,
ont beaucoup oublié, là, ce que vous... Excusez-moi de vous interrompre.
Non, mais c'est, à mon avis, le rapport fondamental. Et puis, dans le rapport nature-culture, qui est une des articulations les plus profondes de la philosophie, on a très mal regardé cette articulation entre la nature et la culture, et tout se passe comme s'il n'y avait plus de nature, n'est-ce pas ? Bien entendu, la nature prise au sens archaïque et un peu anecdotique du terme est supprimée depuis le début des hommes, n'est-ce pas ? Et pour finir, il y a quelque chose de nouveau dans ma vie. J'ai longtemps étudié les mathématiques, les sciences dures, comme vous le disiez tout à l'heure, et cela fait seulement 7 à 8 ans que j'étudie tous les jours, avec beaucoup d'attention, tout ce qu'on appelle aujourd'hui biochimie, biotechnologie et même histoire naturelle et biologie, vous voyez. Donc, j'ai maintenant un rapport au vivant C'est-à-dire j'ai une ambition de faire des livres sur le vivant qui renouent de façon très très précise avec mon enfance agricole, mon enfance paysanne, ou alors le rapport non seulement à la nature, au paysage, était un rapport de pratique et de travail quotidien, mais aussi avec les espèces vivantes, que ce soit de faune ou de flore. Et une des grandes révolutions de notre science aujourd'hui, c'est tout de même que nous avons appris sur le vivant des choses tout à fait fondamentales et tout à fait nouvelles que la philosophie n'a pas encore fini d'explorer, n'a peut-être même pas commencé d'explorer. Oui. Donc il y a là un apport qui est tout à fait fondamental en effet dans mon travail.
Michel Serres, si vous voulez bien aussi, maintenant, vous avez déjà un petit peu abordé, puisque vous nous avez rappelé que le mot paix venait de paysan et de paysage. Oui, votre expérience de la guerre, parce que vous avez cette phrase qui m'a. Que j'ai trouvée très belle, en même temps, tragique. Vous dites, je vous cite, dans un de vos livres qui s'appelle Éclaircissement, le son de lamentation qui émane de mes livres. Le son de lamentation émane de mes livres.
En effet.
On a l'impression que vous avez été totalement. Vous êtes dans l'éploration, vous avez été totalement marqué par cette histoire de la guerre dont vous rappelez que c'était la guerre de 40, et puis après ça a continué, les guerres coloniales, la guerre d'Algérie, etc.
C'est-à-dire, en gros, si vous voulez, de 1936, guerre d'Espagne, où nous recevions, puisque j'habitais non loin de la frontière espagnole, tous les militants qui nous parlaient de ces épouvantables scènes de massacres qui avaient lieu en Espagne, jusqu'en 1939, où la guerre de 1939-1945 a fini, comme vous le savez, à la fois par la découverte des camps d'extermination d'une part et par Hiroshima d'autre part, plus les guerres coloniales, je peux dire qu'entre l'âge de 6 ans et l'âge de 30 ans, j'ai vécu en ambiance de guerre. Et j'ai deux choses à vous dire sur ce point. La première, c'est que vous ne rencontrerez presque aucune personne de mon âge qui ait milité politiquement. Pourquoi ? Parce que pour eux, c'est-à-dire pour nous, c'est-à-dire les gens de ma génération, nous savons obscurément dans notre chair et notre corps, vous parliez du corps tout à l'heure, qu'il arrive que les oppositions politiques finissent par des cadavres saignants dans les fossés. Nous avons vu ça en chair et en os, si j'ose dire, nous avons vu ça de nos yeux, et là, le recul prend tout aussitôt. Deuxième chose que j'ai à dire, savez-vous...
Si vous me permettez, cette question-là, parce que c'est très important
ce que vous dites,
parce que, justement, vous avez, disons, dans l'accueil qu'on fait de votre œuvre, et certains disent que, justement, vous avez montré un intérêt extrêmement minime pour ce qu'on appelle la politique. Alors, Or, il me semble que précisément tout votre œuvre, et ça on y reviendra
se
toute cette
dirige
semaine,
vers la politique.
Excusez-moi, parce que là c'est très important.
C'est très important. Oui, on va le marquer parce que je ne veux pas mourir sans faire une philosophie politique. Ça c'est certain. Mais pour moi, elle se fera à la fin, alors que mes confrères l'ont faite généralement au début. C'est ça la différence. Et la deuxième chose que j'ai à dire est une chose qui me paraît contemporaine et encore plus importante et que je dis dans mon dernier livre, Homi Naissance. A-t-on remarqué, le public a-t-il remarqué que si nous faisons la liste des gens qui aujourd'hui ont les responsabilités suprêmes, de Clinton jusqu'à Bush aux États-Unis, Schröder, Tony Blair en Angleterre ou Lionel Jospin en France, je cite des noms un peu en vrac, aucun n'a eu l'expérience directe de la guerre. Alors, aucun parmi mes confrères philosophes n'a eu l'expérience directe de l'agriculture et aucun parmi ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'a eu l'expérience directe de la guerre. Or, cher Jean-Paul Daulé, savez-vous, j'ai fait un calcul, j'ai fait une recherche spécifiquement là-dessus, or, savez-vous que c'est la première fois que ça arrive dans notre histoire occidentale ? C'est-à-dire jamais dans notre histoire occidentale, aucun pays n'a été gouverné par des gens qui n'avaient pas connu la guerre, car tout homme qui avait comme responsabilité les destinées politiques de son pays avait pour but de panser les blessures de la dernière et de préparer éventuellement la prochaine. Au fond, un homme d'État, c'était ça. Or, aujourd'hui, la guerre se termine, en gros, je parle de la guerre, à l'intérieur des frontières de l'Occident, hein, pas plus. Parce que à côté, évidemment, les choses se passent tout autrement. Mais là, il y a une déchirure ou une nouveauté historique qu'on n'a pas assez soulignée. L'expérience de la guerre, là, est décisive, et l'inexpérience de la guerre me paraît l'être aussi. Du coup, il y a, dans mon souvenir et dans ces années que vous évoquez, deux ou trois choses importantes, outre celles que je viens de dire. La première, c'est qu'au fond, je suis devenu philosophe à cause d'Hiroshima. C'est-à-dire, j'étais scientifique, j'étais passionné de mathématiques, passionné de physique théorique, j'étais plutôt, si vous voulez, destiné à m'occuper de sciences dures et de sciences théoriques, c'est-à-dire autour de mathématiques, physique théorique. Et nous vivions à cette époque avec l'idée plus ou moins scientiste que la science est toute bonne et seule bonne. C'est-à-dire qu'elle était chargée du bonheur du genre humain, point final. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de détritus. Et soudain, l'expérience de cette bombe atomique qui préparait aux États-Unis d'Amérique explose en août 1945 à Hiroshima et Nagasaki, nous découvrons stupéfaits que la science peut faire ça. Et qu'il y a une expérience de la mort qui n'était autrefois qu'une expérience individuelle et personnelle, ta mort, la mienne, celle de celle que j'aime, ou une expérience, disons, un peu plus collective, la mort des cultures comme la culture romaine, la culture grecque, la culture égyptienne. Nous savons que les civilisations sont mortelles, disait Valéry. Nous avions donc deux morts à l'horizon, la nôtre propre et celle d'une certaine collectivité. Et soudain éclate à l'horizon une éventuelle éradication de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'à partir d'Hiroshima et dans les études des bombes thermonucléaires qui durent 20 ans par la suite, il y a un risque mortel pour cette éradication. Et donc là, il y a une expérience tout à fait qui dépasse de très loin le petit enfant que j'étais, ou qui dépasse très loin l'adolescent que j'étais, qui dépasse de très loin la génération, et qui est une expérience que j'appellerais presque transhistorique. C'est-à-dire, c'est la première fois qu'une génération se heurte à une expérience d'une mort nouvelle, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait appeler une mort globale. Vous voyez ? Alors là, que par la suite toute la pensée politique en ait été à mes yeux changée et tout à fait naturelle, n'est-ce pas ? Et je me souviens très bien de gens qui faisaient de la philosophie politique à cette époque-là, à qui je posais la question d'Hiroshima et de ce qu'impliquait l'armement atomique. Ils me répondaient « Comme ma théorie ne permet pas de l'expliquer, je n'en parle pas. » Vous voyez ? Alors que mon idée, c'était construire lentement une théorie qui permette de faire face à ce problème. Voyez. Donc l'expérience de la guerre m'a amené à la philosophie vraiment. Non seulement pour des questions de violence, qui sont des questions, disons, pérennes dans l'histoire et dans l'espèce humaine, mais pour cette raison radicalement nouvelle.
Voilà,
il y a une nouveauté extraordinaire.
Voilà.
Les deux nouveautés, au fond, que je donne dans mon dernier livre, parmi les deux nouveautés, elles s'enracinent dans ce que vous me dites. Mon passé paysan, c'est la fin d'une certaine culture paysanne, comme modèle des actions de l'humanité, et du point de vue de la guerre, l'arrivée de cette étrange expérience d'une mort possiblement globale.
Oui, c'est ce que vous dites dans votre dernier livre. L'événement historique le plus important, c'est la fin de la société paysanne.
C'est ça, de la
cocon modèle. Et en même temps, effectivement, peut-être, je ne sais pas si c'est l'envers, en tous les cas, c'est au même moment, c'est à penser justement, le fait de la question que l'humanité peut
éventuellement
s'extinguer.
Elle devient, d'une certaine manière, en raison de ses actions propres, elle devient une espèce en voie d'éradication. C'est curieux. Il y a des espèces en voie de disparition, mais non pas à cause de l'environnement, mais à cause de ses propres productions.
Voilà. Et d'un certain point de vue, et on finira peut-être sur cette conclusion provisoire aujourd'hui, c'est que, justement, c'est précisément cela qui vous force, si j'ose dire, d'un point de vue vital, à la philosophie, à la pensée de cela.
Exactement.
La pensée de cela.
Et alors,
puisque votre passion, c'était les mathématiques, mais là, il y a quelque chose de plus fort encore que votre intérêt, que votre goût, que votre plaisir, que votre passion même, passion théorique, c'est quelque chose de l'ordre de la vie ou de la mort, si on peut
c'est
dire.
Ça.
La pensée, c'est la pensée philosophique, c'est pour résoudre
elle est rendue nécessaire par ça. Pourquoi ? Parce que, précisément, les sciences qui préparent ce genre d'événements étaient à cette époque-là aveugles à toutes les questions, disons, qu'on pourrait appeler aujourd'hui éthiques, déontologiques ou philosophiques. Oui. J'ai été le premier, finalement, je me rappelle encore du père Bachelard, qui était mon professeur de philosophie, et qui, dans les années 60, écrivait encore l'activité rationaliste de la physique contemporaine, sans avoir entendu aucun bruit venant d'Hiroshima. Oui. Que pour lui, c'était une activité rationaliste, ni plus ni moins. Alors que je lui disais souvent, mais enfin, voyons, la physique a quand même produit ça. Il faut quand même se poser des problèmes qui sont en dehors de l'épistémologie et qui font partie désormais de la philosophie des sciences, mais qui sont des problèmes qui dépassent de beaucoup les méthodes scientifiques et l'activité rationnelle.
Retrouverez demain la suite de cette rencontre enregistrée en 2002 entre Jean-Paul Dollé et Michel Serres, récemment disparu. À voix nue, réalisation Anne-Pérez Franchini, Assia Khalid, coordination Claire Poinsignon. À voix nue se réécoute et se podcast sur franceculture.fr.